www.libradio.org. La station debout.
Nous sommes le 18 octobre 2019 et nous allons parler, eh bien c'est le 9e jour déjà de l'agression, de l'invasion turque au Kurdistan, au nord de la Syrie, que l'on nomme par ailleurs Kurdistan, mais également Confédération démocratique du Nord et de l'Est de la Syrie. Et nous sommes en compagnie de Lougar, bonjour à toi.
Bonjour.
Merci beaucoup de prendre un petit moment pour répondre à nos questions. Alors, voudrais-tu nous dire de quelle position est-ce que tu parles ?
Je vous parle de la commune internationaliste du Rojava, qui est située à Derik, au nord-est du Rojava.
Et alors, voudrais-tu peut-être préciser qu'est-ce que cela signifie ? Qu'est-ce donc la commune internationaliste qui, si je ne me trompe, existe depuis 2017 ?
Oui, c'est un projet qui est né en 2017, qui est d'avoir un lieu où les internationalistes peuvent arriver pour avoir une formation, mais c'est aussi un lieu de passage pour les internationalistes, pour ensuite travailler dans la société, donc travailler avec les institutions démocratiques de la Confédération démocratique. Et si le projet est né en 2017, c'est seulement en 2018 qu'un lieu physique a été trouvé. Et depuis, donc un peu plus d'un an, on accueille les internationaux qui viennent ici pour travailler dans la santé, dans l'écologie ou dans la technique ou quoi que ce soit qui peut aider la société ici.
D'accord. Pourrais-tu nous décrire un peu les infrastructures qui t'entourent ?
Donc en ce moment, on est dans la ville de Derik même. La commune internationaliste est située dans un village en périphérie de Derik. La commune en soi, c'est plusieurs maisons, c'est une sorte de petit village en soi. Situé dans un plus grand village et qui a son propre jardin, puisqu'on élaborait une pépinière d'arbres pour un des projets écologiques qu'on porte avec la ville de Derik, qui est un projet de reboisement d'une réserve naturelle située à côté. Mais en ce moment, sous les attaques turques, on a quitté ce lieu pour simplement être dans la ville de Derik. Donc, voilà, c'est une municipalité de 40 000 personnes et voilà où il y a, comment dire, c'est des maisons des fois avec des petits immeubles, hein. C'est une petite ville, Derik, c'est pas une métropole.
Mmh. Ouais. Donc voilà, Derik, on peut le dire, elle est située donc effectivement tout au nord, à l'est du Rojava. C'est également l'auto-administration démocratique du nord et de l'est de la Syrie qui gère un petit peu ces espaces-là.
Oui, on est dans l'auto-administration, dans les territoires de l'auto-administration. Donc les institutions, la municipalité, les quartiers, donc qui sont tout est organisé en commune et selon le modèle du confédéralisme démocratique, avec toutes les institutions que ça représente, donc autant pour la justice, l'économie, la sécurité, la logistique, l'écologie, les écoles, toute la vie de tous les jours est organisée selon le modèle de l'auto-administration.
Oui. Alors justement, voudrais-tu nous en dire un petit peu plus sur ce confédéralisme démocratique qui règne ?
Oui, alors c'est un modèle donc d'auto-administration, où l'idée c'est de renforcer le pouvoir politique de tout un chacun. Et on va dire un peu la signature de ce modèle, c'est de multiplier les institutions démocratiques et de les avoir de forme décentralisée, donc dans les quartiers. Donc c'est-à-dire que chaque quartier, au bout de quartier, est organisé en communes qui sont déjà des institutions démocratiques à l'échelle du quartier, qui peuvent donc à l'échelon de base, c'est 300-400 familles. Donc des fois, ça peut être juste une grande rue, c'est déjà une commune. Donc les gens s'organisent entre eux avec des réunions et tout ça. Et à partir de ces communes, il y a un échelon supérieur qui peut être le district au sein de la ville, et plusieurs districts font la ville, et donc c'est ça qu'on appelle la confédération. C'est le fait d'avoir ces différents niveaux de représentation démocratique au sein de la ville, mais tout ça s'entrecoupe aussi avec d'autres aspects de la vie. Par exemple, en parallèle de ces communes, on va dire de base, il y a aussi les organisations autonomes des femmes, Donc il y a des maisons des femmes, il y a différentes structures, mais il y a aussi les organisations de la jeunesse, il y a aussi les organisations autour des familles de martyrs, donc les familles qui ont perdu des gens dans la guerre. Et donc tout cela, mais aussi, comme je disais, la justice, la sécurité, il y a toute la multiplication d'institutions à tous les niveaux, donc à la fois dans les quartiers et sur tous les sujets de la vie. C'est tout ce modèle-là qu'on appelle confédéralisme démocratique.
Très bien. Donc pourrait-on dire, si on voulait utiliser quelques mots-clés, que c'est autogestion, horizontalité, féminisme sont parmi les mots-clés que l'on pourrait attribuer?
Oui, complètement. Et démocratie directe aussi, oui. C'est vraiment ça qui est mis en place.
Ouais. Oui, absolument. Alors dis-moi, tu disais, donc c'est une commune internationaliste, alors de où proviennent toutes les personnes? Y a-t-il des gens qui viennent effectivement de très loin? Y a-t-il également des personnes, parce qu'on le sait, le Rojava, alors on l'a pas dit jusqu'à maintenant, mais a priori c'est environ 6 millions de personnes, c'est cela?
C'est ça. Maintenant, il y a eu des déplacements aussi, oui. Durant les 7 dernières années. Donc, c'était plus que 5 millions de personnes dernièrement.
Ok. Alors, on le sait, donc évidemment, beaucoup de Kurdes, également des Arabes, des Assyriens, des Arméniens. Est-ce que ce cosmopolitisme est-il également présent au sein de la commune?
Au sein de la commune internationaliste, donc il y a une diversité de personnes et d'origines. On peut dire ça reste principalement occidental. Donc il y a quand même beaucoup d'Européens. En fait, ça représente la diaspora kurde. Tout simplement, les internationaux qui sont ici sont ici parce que d'une manière ou d'une autre, ils sont rentrés en contact avec le mouvement kurde à un moment. Et de fait, beaucoup des gens qui viennent ici, les pays les plus représentés sont aussi les pays où il y a la plus grande communauté kurde. Et après, au-delà de ça, il y a aussi des gens qui sont venus plus individuellement par affinité politique. Bien sûr, tout le monde a des affinités politique ou de solidarité internationale ici, mais il y a des gens qui viennent d'endroits où il n'y a pas spécialement de Kurdes. Et à ce niveau-là, il y a des gens de partout dans le monde, donc autant D'accord. d'Amérique latine, des Amériques en général, d'Afrique. Il y a tous les continents qui sont représentés.
D'accord, donc c'est vraiment complètement cosmopolite, je veux dire. Et tout cela fonctionne bien.
Oui, ça fonctionne bien. Enfin, faut voir la commune internationaliste, c'est à la fois un lieu de vie, de passage, mais la plupart des gens sont destinés à aller dans la société. Ça fonctionne bien dans le sens où c'est un lieu où on peut venir se ressourcer, puisque par exemple, si on ne parle pas kurde ni arabe, ça peut être un peu compliqué d'échanger dans la société, de trouver sa place ou simplement de faire ce qu'on a à faire dans la société. Donc à ce niveau-là, la commune internationaliste est aussi un bon lieu pour venir se ressourcer, partager ses expériences, débattre aussi des idées de la révolution ici. Et à ce niveau-là, la commune internationaliste fait vraiment ce travail-là, quoi.
D'accord. Les personnes qui vous approchent, les personnes de passage, est-ce qu'elles restent quelques semaines, quelques mois, ou est-ce qu'elles ont, pour certaines, justement, comme tu viens de le dire, envie de rester beaucoup plus longtemps? Ça, c'est le premier volet de la question. Et quels sont les rapports avec les habitantes et les habitants d'Eric?
Pour venir au Rojava, la proposition, en général, c'est de venir pour 6 mois. Et dans ces 6 mois, il y a un premier temps de formation qui est simplement une présentation sur la société, mais aussi sur les idées de la révolution et des premiers cours de kurdes. Et une fois cette première formation qui peut être de quelques semaines, ensuite on peut aller dans la société. Donc on va dire à la commune, les gens passent toujours sur les 6 mois. Sachant qu'ils reviennent aussi avant de partir, ils passent toujours un mois ou deux à la commune sur les 6 mois de travail, on va dire, ou d'activité en général, dans au Rojava. Après, il y a des gens qui restent plus longtemps. Enfin, c'est selon les motivations de chacun. Et c'est très bienvenu de rester plus longtemps parce qu'en fait, en 6 mois, on n'a pas le temps d'apprendre le kurde, oui, ni de vraiment comprendre les dynamiques de la révolution et tout ça. On commence tout juste. Donc en fait, justement, les gens qui viennent pour plus de 6 mois sont très précieux. Et il y en a qui viennent pour 6 mois et qui finalement décident de rester plus longtemps ou qui reviennent une seconde fois et après à être resté quelques mois et qui cette fois-là décident de se projeter sur quelques années parce que les projets qui ont vraiment du sens et qu'on peut faire pour vraiment aider la société, il vaut mieux se projeter sur quelques années. Ouais.
D'accord. Et les rapports avec les populations alentour, et notamment de Derik?
Oui, les rapports sont bons. En fait, la commune, elle est rattachée au mouvement de la jeunesse. Donc, on fait partie en fait du mouvement de la jeunesse révolutionnaire à Derik. Donc, à ce niveau-là, il y a déjà structurellement, en fait, on est avec Derik. On est en échange permanent avec les institutions de Derik et on participe, à toute la vie publique, on peut dire. On est présent en tant qu'internationaliste. On tient d'ailleurs à être présent, par exemple, à toutes les cérémonies d'enterrement pour les chéides, donc les martyrs de la révolution. Dans toutes les manifestations les manifestations aussi de vie culturelle. Des fois, il y a des commémorations d'artistes qui ont participé à la culture kurde d'une manière particulière, ce genre de choses. Donc on est présent dans Derik, on connaît bien les gens, on est assez intégré dans Derik. Et maintenant, surtout en temps de guerre, on est d'autant plus main dans la main avec les gens de Derik et on se voit complètement comme des habitants de Derik.
Alors voilà, on va venir évidemment à la guerre. Hein. Je voulais juste qu'avant cela, on puisse situer vraiment quelques jalons pour comprendre ce que signifie et le sens que ça fait que de venir, que d'être, que de participer à la commune internationaliste. Encore une petite question, quelles activités ont cours au sein de la commune internationaliste et de quelle manière est-ce que les personnes peuvent, ou en tout cas jusqu'à présent, vous ont sollicité pour vous approcher?
Les activités à la commune, c'est notamment les projets écologiques avec la campagne Make Rojava Green Again, qui est une campagne qui a été lancée l'an passé pour à la fois participer dans des projets écologiques localement à Derik, mais aussi communiquer sur tout ce qui peut avoir un trait à l'écologie au niveau du Rojava en général. Et autrement, la manière dont les gens nous approchent, souvent, les gens demandent à venir et finalement juste à dire ils sont prêts à venir, à participer, à rester pour 6 mois. Après, de manière plus proactive ou avec des aspects particuliers, il y a des gens avec des compétences particulières, oui. Donc que ce soit technique ou au niveau de la santé. Soit des gens qui se proposent d'eux-mêmes, soit en fait nous aussi on demande à ce que des gens avec ce genre de compétences viennent pour des projets en particulier, quoi. Des fois c'est les compétences techniques qui nous font défaut. Mais on peut dire il y a vraiment tous les profils qui nous contactent pour venir ici nous aider. Des fois aussi c'est simplement pour afficher une solidarité internationale quand on publie par exemple, des communiqués de solidarité internationale, surtout en ce moment. On a plein de groupes qui nous contactent juste pour être rajoutés à la liste des organisations qui soutiennent. Autrement, c'est possible aussi de soutenir par le don et aussi en travaillant ensemble sur la campagne Rise Up for Rojava, donc la campagne de solidarité internationale qui, depuis le début de l'année, organise... ou coordonne la solidarité internationale avec le Rojava face aux menaces turques.
Oui. Alors le site internet, c'est www.internationalistecommune.com, c'est bien cela? Et il y a, quoi qu'il en soit, une newsletter dessus. Nous, on mettra de toute façon, comme on a mis pour les autres sites, et notamment Rise Up for Rojava, le Secours Rouge Genève, etc. On mettra tous ces liens, de toute manière, au libellé de ce podcast. Hein. Alors, depuis le 9 octobre, eh bien voilà, il y a cette invasion turque qui a cours, une agression qui touche indistinctement des objectifs militaires et civils, des infrastructures sanitaires. Alors voilà, d'abord, première question, comment allez-vous ?
Alors ça va, ça va. Alors on est à fond pour notamment faire tout le travail de communication, média. On est H24, enfin vraiment 24 heures sur 24 sur les réseaux, à la fois suivre les informations, mettre en contact toutes les actions de solidarité, aussi toutes les expressions de solidarité à l'échelle internationale et localement aussi faire cette coordination, envoyer les internationaux là où il y en a besoin. Donc on va dire on est en fil tendu en fait, c'est dur sur les nerfs, mais voilà, on a nos camarades au front, les gens meurent dans la défense de cette révolution, donc on donne tout ce qu'on peut parce qu'il y a rien d'autre à faire, quoi.
Quels sont, selon toi, selon vous, quels sont les objectifs de cette invasion ? On va le rappeler, hein, c'est, si j'ai bien compris, il y a d'abord eu et il y a toujours des bombardements intensifs, sachant que du côté du Rojava, eh bien, malheureusement, font défaut des batteries anti-contre-aériennes et qu'il y a des incursions, évidemment, terrestres et que, si j'ai bien compris, notamment, enfin, il y a deux poches extrêmement touchées, pas loin de chez vous d'abord, à Kamishlo, et également du côté de Kobané et de Tel Abiad, si je ne me trompe. Alors voilà, selon toi, quels sont les objectifs du régime d'Ankara ?
Alors les objectifs d'Erdogan sont clairement ceux de rétablir une forme d'empire ottoman, ou en tout cas d'aller vers les frontières de l'Empire ottoman tel qu'il était ou tel qu'il prévoyait d'être vers la fin, enfin avant la Première Guerre mondiale. Et ils ont publié, donc je crois que c'est le ministre de l'Intérieur ou de la Défense turque qui a publié une carte de Turquie où voilà, ils avaient étendu leurs frontières sur tout le nord de la Syrie, mais aussi sur un bout du Kurdistan irakien, mais ils avaient intégré un bout de Chypre aussi. Enfin, voilà, leur vision est vraiment vraiment expansionniste, comme oui. Ça de déborder les frontières, et ça rentre en écho, en résonance avec les génocides qu'il y a eu durant ces époques d'extension de l'Empire ottoman, quoi.
Ouais, ouais. Y a-t-il également, on peut l'imaginer clairement, le fait de vouloir abattre, ben voilà, de vouloir détruire cette révolution kurde, dont on sait qu'elle est tout à fait opérationnelle, hein, ce confédéralisme démocratique qui est bien entendu, même en termes de valeurs et de philosophie, s'oppose radicalement à l'autoritarisme de Erdogan.
Clairement, on se situe là, la résistance kurde, de toute façon, est né face à l'autoritarisme turc, mais pas seulement turc, mais aussi, c'est plus généralement l'autoritarisme des États-nations, puisque ce qui est à la genèse du conflit moderne entre Turquie et Kurdistan, c'est le traité de Lausanne, le traité Sykes-Picot, donc c'est l'Angleterre et la France, après la Première Guerre mondiale, qui dessine des frontières dans cette région du Moyen-Orient qui n'ont rien à voir avec la réalité ethnique, enfin c'est la réalité démocratique des peuples ici, quoi.
Ouais, là on est dans l'extractivisme colonial pur jus, hein, effectivement, avec les traités dont tu parles ici, qui étaient, si je ne me trompe pas, également sur des projections de contenu pétrolier qui seraient dans les territoires, et on s'est dit qu'on couperait en deux pour notamment la France et la Grande-Bretagne.
Bien sûr, ouais, exactement. Tous les territoires ici, historiquement, ont été vus comme des poches de réserves, comment dire, de ressources naturelles, qu'on devait exploiter, quoi, en oubliant complètement le fait que des gens vivaient sur ces ressources naturelles. C'est à ça qu'on s'oppose complètement, cette vision colonisatrice, non seulement de Turquie, mais aussi d'Europe.
Oui, et puis c'est en soi le confédéralisme démocratique contient des valeurs qui sont tellement aux antipodes de ce qui habite Erdogan. J'imagine que voilà, s'il peut en plus totalement détruire ceci, il n'est pas contre quoi. Alors quand il y a également, donc il y a évidemment cette conquête territoriale, ce fantasme démagogique d'une Turquie, d'une ottomane comme ça. Il y a également des déplacements de population incroyables en ce moment, si j'ai bien compris. Alors évidemment, les gens sont, il y a des bombardements, donc les gens sont mutilés, sont tués et sont également déplacés.
Oui, depuis, dès le début des attaques, on a assisté à des déplacements. On a pu le voir directement à Derik. Qui était pourtant pas attaqué à ce moment-là, quoi. Dès que les premières attaques ont été annoncées, des familles entières, enfin, montaient dans les voitures et partaient vers la frontière, quoi. Et maintenant, les derniers chiffres que j'ai vus sont entre 200 000, 300 000 personnes déplacées. Surtout, avec les attaques sur Kobané, Girespi et Serekanié, il y a eu des déplacements massifs de personnes vers la frontière avec le Kurdistan irakien pour se réfugier, quoi.
Ouais. Et alors justement, le Kurdistan irakien, comment ça se passe là-bas? Est-ce que des alliances sont possibles? Est-ce qu'effectivement la frontière est poreuse? Voilà, comment ça se passe? Parce que vous y êtes, hein, à la frontière, vous êtes tout près.
Alors, on n'est pas loin de la frontière, mais on n'est pas on n'est pas à la frontière.
Non, oui.
On s'est pas rendu sur place pour voir la situation exactement. Je sais pas à quel point les gens arrivent à passer ou si simplement ils sont bloqués à la frontière. En tout cas, avec le Kurdistan irakien, il y a eu des manifestations en solidarité avec la situation actuelle, parce que les gens au Kurdistan irakien déjà sont, en fait, depuis quelques mois déjà, sont envahi aussi par la Turquie au nord, dans la région de Krakourke, où la Turquie a déployé des bases militaires déjà depuis quelques mois. Donc il y avait déjà des attaques. Donc pour eux, l'invasion avait déjà lieu. Et d'autant plus, ils savent que le projet expansionniste de la Turquie, c'est premièrement le nord de la Syrie et après c'est le Kurdistan irakien. Donc la lutte est lié d'une façon très claire, c'est très clair pour les gens. Et de la part de groupes de défense, il y a eu une solidarité annoncée par les Kurdes, mais aussi par les Yézidis du Kurdistan irakien, qu'ils allaient soutenir, voire essayer de venir ici au Rojava pour soutenir la résistance.
D'accord. Quelles sont les forces de résistance en présence opérationnelle? Il y a les IPG, IPJ, également les forces de défense syriennes, les forces démocratiques de Syrie, le bataillon internationaliste également.
Les forces YPG, YPG sont intégrées dans les forces démocratiques syriennes, donc
d'accord,
appelées SDF généralement, et qui intègrent aussi des forces d'autodéfense arabes. De communauté arabe, mais il y a aussi la communauté arménienne et les communautés assyriennes. Voilà, elles sont toutes intégrées. Maintenant, il y a un front commun, en fait, qui est celui des SDF, des
D'accord.
démocratiques syriennes.
Ouais, ouais. On va juste le rappeler, IPG, c'est les unités de défense du peuple, et IPJ, les forces d'unité de défense des femmes.
Oui, c'est ça.
Voilà. Et alors, dis-moi, il y a eu cette alliance avec le régime d'Assad, ce qui ferait de l'armée syrienne arabe un allié de circonstance. Qu'en est-il?
Alors, allié, oui. Je ne sais pas si on...
Peut-être que c'est un mot un peu trop fort.
Enfin, la manière dont ça a été dit, c'était que c'était un accord militaire, simplement. Mm-hmm. Purement et simplement. Et d'ailleurs, qui n'est même pas écrit. Donc on est vraiment sur quelque chose d'assez volatile, d'assez faible, mais voilà, c'était purement militaire. Ça n'engage en rien au niveau des structures de pouvoir ou quoi. Enfin, on pourrait imaginer que le régime Assad voudrait revenir dans la région. En tout cas, de notre côté, rien n'a été validé dans ce sens-là. Mmh. Donc c'est un accord militaire de circonstances pragmatiques, mais c'est pas simplement pragmatique, comme ça a été dit. C'est pour éviter un génocide qui est annoncé, un nettoyage ethnique qui a été annoncé par la Turquie, par Erdogan maintes fois, au vu et au su de tous. Et entre les compromissions et le génocide, il a été décidé de choisir la vie. Donc, c'est comme ça que ça a été présenté. Voilà, on est sur un accord de cette sorte.
Oui, tout à fait. En face, c'est l'armée turque et les supplétifs, donc on le sait, Daesh, des groupes islamistes.
Oui. Alors là, pareil, ça a été documenté, montré plein de fois que la Turquie intégrait dans les rangs de ses armées directement les djihadistes, donc de groupes comme Daesh, mais aussi d'autres groupes djihadistes. Donc ils sont soit intégrés dans son armée, soit c'est ces groupes de mercenaires qui sont envoyés comme chair à canon, au final, comme première ligne de bataille. Et donc c'est ceux auxquels on a affaire en fait principalement depuis le début des offensives qui sont envoyés, donc qui font complètement partie, on va dire, de l'arsenal militaire turc, qui et voilà, donc la Turquie qui n'a aucun problème de travailler avec ces gens-là, puisque en fait on sait maintenant que depuis des années la Turquie protégeait, soutenait et finançait ces groupes djihadistes, y compris Daesh.
Qu'en est-il de cette no-fly zone et de cette communauté internationale dont le silence résonne dans nos oreilles? L'ONU, l'Union européenne, on voit qu'il y a des sortes de prises de position un petit peu comme ça. On reviendra après aux toutes dernières informations qui parlent de cet accord entre Trump et Erdogan. Mais avant cela, voilà, y aurait-il pas moyen d'avoir immédiatement une no-fly zone, par exemple, qui empêcherait ces bombardements? Qu'en est-il de ce côté-là actuellement? Et comment est-ce que vous observez les atermoiements de la communauté internationale et des instances internationales comme l'ONU, comme l'Union européenne?
Alors, depuis la commune internationaliste, nous, ce qu'on demande, c'est un arrêt complet de l'offensive et pas simplement un arrêt de...
Bien sûr.
Comment dire, de la zone de survol,
tout à fait.
Qui serait une mesure positive, bien sûr, si elle venait, ce serait positif, mais nous, ce qu'on demande, c'est l'arrêt complet des offensives, qui peut être assuré, alors dans les détails, potentiellement, à la fois la coalition internationale serait en mesure d'assurer cette zone de non-survol, mais autant la Russie avec le régime Assad. Donc, on va dire, il y a de nombreuses forces qui peuvent mettre en place cette zone de non-survol, mais ces mêmes forces peuvent aussi décider de complètement arrêter le conflit.
Oui.
Elles ont ces cartes en main, enfin elles ont de nombreuses cartes en main qu'elles peuvent utiliser. Et justement, au niveau des prises de position de toute la communauté internationale qui condamne les attaques, mais voilà, qui simplement dit qu'elle condamne, mais dans les faits, il n'y a aucune sanction
oui, c'est ça.
Qui est prise. Bon, il y a eu quelques pays qui ont arrêté d'envoyer des armes vers la Turquie, mais les armes sont déjà là. Les tanks allemands, par exemple, enfin tout l'armement qui peut être américain, mais qui est aussi beaucoup européen, de la Turquie, hein, qui est une armée de l'OTAN. Donc tout ça, c'est déjà présent. Donc, le fait de simplement, à partir de maintenant, arrêter d'envoyer des armes, au final, ça change pas grand-chose. Et les sanctions, autant économiques que militaires ou d'autres formes, pourraient arriver par de nombreux biais, par les Nations Unies, par l'OTAN et directement par les pays eux-mêmes, par l'Union européenne, pourraient prendre des positions beaucoup plus fermes contre la Turquie, mais ne le font pas.
Et ça, comment l'expliques-tu? Est-ce que voilà, c'est parce que y a cette menace d'Erdogan de faire passer des cohortes comme ça de migrants en direction de l'Europe, ou est-ce que c'est tout simplement parce qu'il y a des intérêts économiques tels entre, par exemple, l'Union européenne et la Turquie que personne ne veut pour de vrai eh bien s'opposer et dire stop à ce conflit. Voilà, comment est-ce que tu lis toi ces atermoiements justement? Comment tu les interprètes?
Alors il y a un peu de ces deux choses-là, quoi. Il y a à la fois les intérêts économiques. Donc à ce niveau-là, on peut voir que par exemple l'Union européenne est au service des intérêts économiques des capitalistes européens et notamment des vendeurs d'armes européens. Donc à ce niveau-là, ils ont aucun, l'UE ne va pas défendre l'arrêt du conflit, alors que ça fait prospérer les vendeurs d'armes européens d'avoir ce conflit, puisque c'est des armes européennes qui sont utilisées.
Oui.
Donc il y a ces intérêts économiques privés qui sont en jeu, et d'un autre côté, sur un aspect plus on va dire diplomatique, il y a effectivement toute la question des réfugiés que la Turquie utilise allègrement comme des pions pour un chantage au déversement de réfugiés en Europe, qui bien sûr amènerait un chaos, quoi, mais à aucun moment en Europe on se pose la question de qu'est-ce qu'on fait avec ces réfugiés, sachant qu'on participe dans les conflits qui génèrent ces réfugiés. Donc
bien sûr.
On disait tout à l'heure, en à peine une semaine, c'est déjà 300 000 réfugiés en plus qui ont été générés. Enfin voilà, la Turquie fait partie de l'OTAN, et ça veut déjà tout dire. Ça veut dire que les autres forces de l'OTAN valident
tout à fait
l'offensive de la Turquie.
Ouais.
Sinon, tout simplement, ça ne pourrait pas avoir lieu. Donc il y a un continuum aussi d'intérêts politiques, économiques entre la Turquie et les autres puissances. En fait, le silence, c'est vraiment un accord avec l'offensive. Et ça, c'est très clair à tous ces niveaux qu'on a évoqués.
On l'a dit, les civils et les infrastructures civiles sont bombardés. De nombreux mutilés, des blessés, des tués, des innombrables déplacés, tu viens de le dire. Alors vous-même, au sein de la commune internationaliste, comment est-ce que vous vivez la situation? Quel est l'état d'esprit qui vous habite en ce moment?
On est purement dans un esprit de résistance et de solidarité révolutionnaire, comme il y en a eu dans l'histoire. On tire vraiment aussi notre énergie pour rester ici et confronter aux côtés de nos camarades kurdes la situation. On tire cette énergie de la solidarité internationale qui nous est envoyée, dont on se fait les vecteurs ici, et aussi de toute cette histoire de résistance de l'humanité face à l'oppresseur. On s'inscrit aussi dans cette lignée-là. Et ce qui nous donne du courage, par exemple le parallèle qui est souvent fait avec le Rojava, c'est la guerre civile espagnole, c'est l'Espagne anarchiste de 1936 face au franquisme. Maintenant qu'on est sous les bombes, nous aussi, et face à Erdogan, enfin on comprend ce que ça a pu être à l'époque, et de savoir qu'on est du bon côté, qu'on continue cette lutte juste contre le fascisme. Tout simplement, c'est ça qui nous fait tenir.
Oui.
Jusqu'au lendemain, et on évolue comme ça de jour en jour. Voilà.
D'accord. Dans des telles conditions, est-ce que l'on peut dire que la solidarité, eh bien, là aussi, c'est quelque chose d'extrêmement important et qui a cours. Deuxième petit volet de la question, est-ce que justement cette manière de fonctionner, ces valeurs, cette philosophie fondamentale, ce confédéralisme démocratique, est-ce également quelque chose qui, selon toi, pourrait effrayer également les gouvernements d'Europe et pourrait participer à leur silence? En tout cas, je veux dire pas à leur silence parce qu'ils communiquent beaucoup, mais disons à la réalité qu'ils font, qu'ils sont totalement désengagés.
Là-dessus, je pense que leur silence vient plutôt de leur complicité avec la Turquie, qui est au-delà de la question politique. En fait, tout simplement, ils sont complices des massacres de la Turquie. Et du coup, ils se taisent, peu importe en fait le projet politique ici. Tout simplement, la Turquie annonce un génocide des Kurdes. L'UE a décidé de collaborer à ça. Donc, je crois que ça va même pas plus loin que ça, quoi, leur silence. Simplement, ils approuvent le génocide d'une population qui veulent coloniser. Et voilà, historiquement, c'est-à-dire les puissances occidentales ont déjà fait ça sans pour autant vouloir réprimer un projet politique. et c'est quelque chose qui se passe autour de la planète de toute façon, sans forcément porter un projet politique. Il y a ces exactions génocidaires sans le projet politique, ce silence aurait lieu quand même. Mmh. Et voilà. Par contre, au niveau de la solidarité, c'est effectivement avec la révolution démocratique, féministe et aussi écologique, c'est ça qui permet, qui fait que les gens expriment une solidarité telle avec ce mouvement ici. Et à ce niveau-là, j'aurais plutôt tendance à dire que les pays qui se revendiquent de la démocratie, ou du socialisme, ou des valeurs humaines de base, des droits de l'homme ou quoi que ce soit, auraient tout intérêt à défendre le Rojava, puisque les valeurs que j'ai citées sont les valeurs dont on entend parler par la gauche du 21e siècle en permanence, face à la crise climatique, face au féminicide, et avec cette volonté d'autogestion de démocratie plus participative, plus directe, dont on entend parler. En fait, toutes les puissances qui se veulent démocratiques pourraient se placer du bon côté de l'histoire en soutenant le Rojava. Donc, je pense oui. Ils n'auraient pas spécialement peur à ce niveau-là de se placer de notre côté.
D'accord. Les relations Poutine-Erdogan, on voit qu'elles sont pour le moins ambiguës. Ça, de votre point de vue, c'est problématique.
On ne sait pas trop à ce niveau-là comment la Russie voit les choses, comment elle va tirer son épingle du jeu. Bien sûr, ils ont pesé le pour et le contre avant de venir en soutien donc au régime Assad en se plaçant face à la Turquie. Donc c'est pas clair. Pour nous, quels sont leurs intérêts, mais c'est clair. Ce qui est clair, par contre, c'est que ils ont trouvé un intérêt, un accord particulier à faire, ce soutien. Mais pourtant, voilà, il y a quelques mois, donc il n'y a pas si longtemps, Erdogan menaçait les États-Unis de s'allier avec la Russie pour des achats. Des achats d'armes, mais aussi pour des accords diplomatiques. Donc, il y a vraiment un jeu très ambigu. Mmh. Et au final, l'opposition qu'il peut y avoir maintenant, de fait, entre les forces armées de Assad et de Russie face à Erdogan, au final, voilà, c'est un conflit d'intérêts momentané, mais ça peut très bien se retourner et ils peuvent très bien se remettre à travailler main dans la main. Du jour au lendemain, quoi. Enfin, tout est dicté, voilà, par des accords purement économiques ou politiques. Voilà.
Ouais, absolument. J'ai encore trois petites questions. Je te sens fatigué. Hein. Je suis absolument désolé. Trois petites questions et on s'en va. Ouais. Écoute, alors parlons quelque peu, si tu le veux bien, du cessez-le-feu de 120 heures qui aurait été trouvé, alors qui ne concernerait que les zones de Serakanié et de Tel Abyad, si j'ai bien compris. 120 heures, c'est pas tant que ça. C'est un accord qui aurait été trouvé entre Trump et Erdogan. Alors, quels en sont les contours? On a entendu une déclaration de Masloum Abdi, qui est donc le commandant des SDF, donc des forces syriennes démocratiques. Mais peut-on accepter un retrait du côté kurde, pardon, peut-on accepter un retrait complet, parce que ça fait partie des conditions de cet accord? Ou est-ce qu'on n'a pas là une deuxième trahison américaine après le retrait unilatéral? Parce que là, finalement, de facto, c'est une victoire stratégique de la Turquie.
Mais cet accord, enfin ce cessez-le-feu, il avait été discuté en amont, on peut dire, avec entre les SDF et les États-Unis. Donc apparemment ils travaillaient dessus depuis quelques jours. Mm-hmm. Donc ça n'a pas été complètement unilatéral. Par contre, ce qui est clair, c'est que dans ce cessez-le-feu, ce qui apparaît, c'est le rapport de force complètement inégal. Bien sûr entre nous et la Turquie. Oui. Donc même si on a pu exprimer notre voix dans ce cessez-le-feu, ce qui est clair, c'est que Nous, on est face à un génocide, face à la deuxième armée de l'OTAN, qu'on a été obligé de faire appel, à faire cet accord militaire avec la Syrie et la Russie, qui sont pas nos alliés démocratiques, on va dire. Et dans cette situation-là, on ne peut que accepter, quelque chose qui peut-être va limiter les dégâts, en tout cas pendant quelques jours, à voir ce qui va se passer après. En tout cas, ce qui a été dit, c'est que ce retrait, il n'est pas du tout sur toute la zone que la Turquie voulait. Donc la Turquie avait directement annoncé, on a eu tout ce qu'on voulait, ce qui n'est pas vrai.
Ouais, c'est vrai qu'il y a une communication, une stratégie de communication turque en disant triomphaliste, qui est tout à fait fallacieuse, quoi.
Oui, complètement. Et bon, on est encore dedans, dans le jus de cette annonce. Donc c'est pas encore clair tous les tenants et aboutissants de ce qui va se passer vis-à-vis du retrait. Est-ce qu'on va se retirer de cette zone, sachant que à peine le cessez-le-feu annoncé, directement les attaques sur la ville de Serekaniye se sont amplifiées du côté turc.
Ouais.
Par la Turquie. Donc ils respectent même pas ce cessez-le-feu dans la zone sur laquelle nous aussi on avait on avait accepté le cessez-le-feu. Donc niveau communication et voilà, il y a un signal qui est envoyé dans un sens et puis dans un autre, quoi. C'est très peu clair ce que la Turquie va faire. En tout cas, elle peut se permettre tout ça parce que le rapport de force est tel.
Bien sûr.
Donc c'est là où on a besoin de soutien plus que jamais.
Öcalan, depuis l'île prison d'Imrali, donc qui se trouve au sud d'Istanbul, où il est incarcéré depuis 20 ans, eh bien pour le moment, en tout cas de notre point de vue, garde le silence. Pourquoi, selon toi, est-ce qu'à un moment donné, il serait intéressant de l'entendre ?
Il est maintenu au silence.
D'accord.
C'est-à-dire que ses avocats, sa famille, qui légalement sont les seuls à pouvoir demander de le voir. Depuis, alors je crois qu'il y avait eu une dernière apparition en mai ou en juin. Depuis ce moment-là, il a été maintenu au silence. Toutes les demandes pour lui rendre visite ont été refusées.
Ouais.
Les demandes ont été redoublées ces derniers jours, ces dernières semaines, et ça a été refusé. Donc il est maintenu au silence. Il demanderait, le peuple kurde ne demande qu'à qu'à ce qu'il s'exprime, mais c'est malheureusement impossible. Et pourtant, ce serait peut-être une clé de résolution de conflit, puisque Öcalan est quelque part la seule figure que la Turquie accepte comme représentante des Kurdes et avec laquelle Ankara pourrait discuter, et parler au nom de tout le peuple kurde pour trouver un accord, comme ça a été fait par le passé. Quoi. Des processus de cessez-le-feu, de résolution de conflits qui avaient été lancés durant toute l'incarcération d'Öcalan. Et le fait que ça soit pas allé plus loin, c'est parce que systématiquement, la Turquie a mis fin à ça. Donc de ce côté-là, c'est vraiment la Turquie qui cherche à taire cette voie et derrière à taire toute possibilité de résolution démocratique du conflit.
Ouais, absolument. Je te remercie pour toutes ces informations là. De manière actuellement, comment est-ce que vous allez continuer la lutte sur place? Comment vous envisagez cela? Et de notre côté ici, comment pouvons-nous nous solidariser depuis si loin?
Nous, de notre côté, la commune internationaliste et avec la campagne Rise Up for Rojava, on continue à 100% les appels à solidarité internationale et sur place à faire entrer cette solidarité en action. Donc même s'il y a cessez-le-feu, pour nous le tout continue et pour la communauté internationale, pour les groupes qui veulent exprimer leur soutien, ce travail-là doit continuer. Ce cessez-le-feu, s'il apporte un peu de paix, il a été gagné durement dans un rapport de force face à ces attaques fascistes. Et c'est bien grâce au fait qu'il y avait une telle solidarité internationale qui est quand même très forte. On la ressent. Il n'y a jamais eu autant d'expressions de solidarité avec le mouvement kurde à l'échelle internationale. C'est ça qui a permis quelque part d'avoir un tel cessez-le-feu. Donc il faut absolument continuer. Et donc on appelle tout le monde à rejoindre les manifestations qu'il y a un peu partout. Donc ce samedi, il y a une journée d'action manifestation internationale, et il va y avoir d'autres. Donc chaque week-end, mais bien sûr les actions spontanées en permanence sont bienvenues. Mais on coordonne aussi des actions d'ampleur chaque semaine. Donc on appelle tout le monde à répondre présent à ces appels et à prendre des initiatives, à s'organiser avec tous les groupes locaux, puisque le Rojava concerne tout le monde avec ses propositions de démocratie directe, de féminisme, d'écologie. Donc ça concerne tout le monde. Donc on appelle à ce que tout le monde s'organise avec des groupes avec lesquels ils n'ont pas l'habitude de s'organiser pour renforcer la solidarité internationale, aller plus loin, et c'est avec cet appui-là qu'on pourra vraiment espérer mettre fin au conflit.
Comment est-ce que tu t'attends à ce que ces prochains jours se passent? Peut-être que ce cessez-le-feu est pour de vrai, qu'il soit pour de vrai respecté. Et y a-t-il d'autres choses que tu vois ou que tu sens pouvoir se déclencher?
On a pu voir ici des gens célébrer le cessez-le-feu déjà hier parmi la population. Mais en tout cas, je veux dire, nous et tous les gens qui sont plus proches du conflit voit très bien que ça continue, avec notamment, il y a eu bombardement de l'hôpital de Serekanié dans la nuit là, et bref, donc on continue tout pareil. Donc en fait le cessez-le-feu a que peu d'influence. On est toujours en situation de guerre, les invasions continuent, elles étaient déjà là, il y avait déjà l'invasion d'Afrine par le passé. Donc la situation d'occupation par l'État turc était déjà là, et puis il y a toutes les autres régions du Kurdistan, enfin les Kurdes en Turquie se font réprimer aussi depuis 100 ans. Donc en fait tout continue quoi.
Lougar, je te remercie énormément. On va rappeler le site de la commune internationaliste, qui est donc www.internationalistecommune.com. toute notre solidarité, courage, et merci beaucoup.
Merci à vous. Continuez. Send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space.
Libre Radio, www.libradio.org, la radio coup de tête balayée. Et vive l'anarchie, tout ça. Libre Radio, la radio d'agitation populaire.